Je crois bien que c'est au 226 rue Saint-Denis que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Marie-Sara et moi, quelque part dans l'hiver 2014. Un peu après, les boutiques de fringues à destination d'un public ultra-féminisé à bas prix. Un peu après, la grande arche en pierre entourée de kebabs, de coiffeuses afro et de restaurants indiens. Si l'on passe le portail du 226, se tient un laboratoire d'un genre nouveau. Son nom est La Paillasse. C'est un laboratoire citoyen et ouvert à tous, un refou, où l'on pourrait faire de la science ailleurs que dans de grands laboratoires scientifiques. Et faire de la recherche citoyenne. C'est là que je rencontre Marie-Sara. Et c'est ici que nous commençons à discuter de ce que devrait être une réflexion réellement fondée sur le biodesign, dont d'ailleurs nous détestons l'étiquette. Peut-être d'ailleurs parce que nous n'aimons pas tellement les catégories en règle générale. Nous cherchons l'esprit critique, éclairé, nous cherchons ce qui donnerait autant de sens au vivant qu'au design que nous aimons. Entre-temps, Marie-Sara termine son diplôme à l'ENSI, ainsi que son mémoire, Dansé parmi les fossiles. Les lectures que vous entendrez durant cette émission sont issues de ce travail de recherche. Entre-temps, Marie-Sara remporte quantité de prix et monte une entreprise, Pili. Ce qui est né au début d'un squat prend une vie concrète, une expérience consistant à modifier la génétique de bactéries pour leur faire produire des molécules colorantes. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île d'Issy-les-Moulineaux, où vit Marie-Sara à Denis, là-haut, rayonne des objets et des ouvrages qui se livrent à des discussions, dans des langues inconnues. Objets de culte africain, égyptien, peintures et images, mots et récits. Cet entretien est la première partie de l'interview, qui se concentre principalement sur le projet génomique oraculaire et l'enseignement du design par Marie-Sara. Bio is the new black. Dans le projet génomique oraculaire, tu incarnes le duo génétique-épigénétique par le couple Dionysos et Apollon. Dionysos et Apollon apparaissent dans la pensée de Nietzsche dans l'ouvrage La naissance de la tragédie qui a été publié en 1872 sous le trait de deux forces complètement antagonistes que le philosophe Nietzsche tente de réunir et faire dialoguer. Cette dualité que tu convoques ici te permet de faire pénétrer science et culture. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce projet de génomique oraculaire qui a été ton projet de diplôme mais qui est peut-être aussi autre chose, qui est peut-être une forme de recherche encore en cours ou qui prend d'autres formes? Qu'est-ce que tu aimerais en dire ici? Dans un premier temps, je crois qu'on peut quand même essayer juste de revenir un tout petit peu sur qu'est-ce que la génétique et l'épigénétique, parce que j'ai pas trop envie de me risquer à le faire. Et j'ai un peu envie de profiter que ce soit toi qui le fasses.
Alors, en fait, c'était plutôt sur la génomique personnelle qui, en fait, consiste à séquencer le génome d'une personne, c'est-à-dire, en fait, à extraire son ADN, à le lire d'une certaine manière, à lire les séquences qui sont à l'intérieur et qui déterminent un ensemble de traits qui peuvent être physiques, physiologiques, etc. Et qui vont en plus, parce que ça c'est une spécificité de l'ADN, c'est une molécule qui vient de très très loin en fait dans le temps. Ce n'est que un collage, une espèce de mosaïque sans cesse métissée comme ça entre tous les individus. En regardant l'ADN, on peut avoir accès à des lignées ancestrales, quoi. On peut voir un peu d'où on vient globalement, ce genre de choses. Mais l'ADN en fait a cette propriété de nous indiquer des choses qui vont plutôt vers l'avenir, qui nous permettent plutôt de nous projeter aussi, parce que finalement, si on a tel gène, on sait que en regardant d'autres personnes qui ont le même type de gène et qui ont développé tel type de trait ou tel type de maladie, il y a des probabilités pour que tu développes ça aussi. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est une molécule qui est déjà un peu amphibie, quoi. C'est-à-dire qu'elle permet d'aller... c'est un peu une molécule temporelle, d'une certaine manière, aussi. Donc, les dernières années, on a vu beaucoup d'entreprises qui proposaient ce genre de test, typiquement 23andMe, et qui, à partir de la salive et des cellules qui se trouvent à l'intérieur, vont envoyer un certain nombre de prédictions. Moi, je l'ai fait donc par curiosité, non pas sur mon propre génome, mais vraiment sur la forme, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en dire? Comment ils vont le dire? Et en fait, j'ai été très déçue et même en colère de voir comment ces informations étaient traitées. C'est-à-dire que c'était des chiffres à virgule, donc qui donnent une espèce de précision, donc 23,4% de chance d'avoir un cancer du sein, par exemple. Moi, je crois que j'avais le récepteur qui n'était pas muté, donc je ressens très fortement l'amertume. Et du coup, j'aime pas le brocoli, etc., etc., ce qui est assez, ce qui est le cas. Ça n'a aucun intérêt de regarder dans le génome pour savoir ce genre de choses. Et par contre, toutes les prédictions médicales, effectivement, bon, moi, j'étais très choquée de comment on annonçait ça. Et alors, en plus, il y a des moyennes qui sont faites, donc si on est au-dessus de la moyenne, qu'on a plus de risques de développer tel ou tel type de trait, les résultats sont en rouge, etc., sinon c'est en vert. Donc, il y avait vraiment un côté que je trouvais complètement manichéen là-dedans, hyper dangereux, parce que beaucoup de personnes hypochondriaques et beaucoup de personnes surtout qui ne savent pas comment fonctionne le génome. Et moi, je me disais, mais quitte à faire des prédictions autour de ça, quitte à travailler autour de l'ADN, comme les gens ne savent pas ce que c'est l'occasion de raconter ce que c'est, cette molécule. Et ça, c'est une partie qui manque. Et donc, moi, je me suis dit, finalement, j'avais cette sensation que la génomique personnelle était traitée comme la fille d'Apollon. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Apollon, donc, qui va plutôt être le représentant de ce qui est maîtrisé, des proportions, de l'énonciation, quoi, de toute la beauté, enfin... Et je me suis dit, mais l'ADN, c'est aussi... Enfin, bien sûr, il y a ça dans l'ADN. C'est-à-dire que la vie, en fait, ça tient à aussi une molécule qui est capable d'avoir une espèce de reproductibilité et qui doit pas se s'abîmer trop facilement. Donc il y a plein de systèmes de correction à l'intérieur de l'ADN, et en même temps il faut aussi une capacité de mutation pour pouvoir intégrer des choses qui permettent en fait une agilité à la fin, puisque quand l'environnement varie, si l'ADN lui-même en fait crée des nouvelles possibilités, ça voilà, mais c'est pas une finalité, puisque c'est un hasard que ça se passe comme ça. C'est juste que c'est ce qui fait que l'ADN est une molécule hyper puissante depuis que la vie existe, c'est qu'elle a cette capacité en fait à la fois être dans quelque chose de maîtrisé et quelque chose poreuse au changement. Et en fait, je trouve qu'elle est trop représentée comme étant quelque chose de déterministe. Et dans nos vies, en fait, il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui n'est pas la génétique, tout le reste. Donc, c'est nos modes de vie et où on vit, comment on vit, si on est stressé, à quel, enfin, tout ce qui nous arrive et qui en fait a une influence directe sur l'expression de nos gènes. Donc, nos gènes, ils vont pas s'exprimer de la même manière dans un environnement ou dans un autre, dans un contexte ou dans un autre. Et donc, toute cette part de finalement de flou, d'imprévisibilité, etc. Elle semblait très bien incarnée par Dionysos, et comme ce couple existait, comme tu l'as dit grâce à Nietzsche, j'ai décidé de l'utiliser aussi pour créer une espèce de dualité et que les gens soient plus face simplement à des résultats, mais qu'ils soient face en fait à deux personnes qui sont pas d'accord, ouais, de dialogue, que y ait une espèce de triangulation qui se crée. Et donc une espèce de responsabilité face à ça. Voilà, ils sont pas d'accord sur tout, et qui est cette possibilité de pas être juste dans les chiffres, mais aussi de revenir à la parole, ce qui est très important. Et donc là, c'est là que j'ai fait le lien avec les oracles et les pratiques divinatoires, parce que effectivement dans la parole, il y a aussi des ambiguïtés, il y a des choses qui sont ouvertes et où la nécessité d'interpréter est très importante. Et je me suis dit, mais finalement, quand on va chez un devin, on a une question précise, on peut avoir une réponse floue. Là, ce qui est fou avec ces tests de génétique, c'est que on se retrouve à cracher dans un tube et à avoir des milliers de réponses à des questions qu'on s'est pas posées. J'ai trouvé ça fou. Et j'ai commencé, en fait, à faire des appariements entre des pratiques divinatoires et des pratiques scientifiques, techniques autour de la génomique, du séquençage, etc. En les combinant, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une recette qui se tenait. C'est-à-dire que les pratiques oraculaires, elles sont intéressantes pour moi, pas pour leur vérité. Par contre, ce qu'elles ont pu produire comme gestuelle, comme outil de médiation, finalement, comme parure, comme danse, comme chant, finalement, c'est tout ce qui manque autour de l'ADN, qui pour moi, en fait, est aussi une molécule sacrée. Quand je le dis comme ça, ça paraît être un peu peut-être religieux, mais ça l'est pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, c'est une molécule à laquelle j'ai envie de rendre un hommage, en fait. J'ai pas juste envie de lui dire « dis-moi ce que t'as à me dire sur moi ». J'ai aussi envie qu'il y ait tout un tas de choses qui culturellement soient créées autour. Donc qu'est-ce qu'on crée comme forme qui lui rende hommage aussi, quoi. Et donc dans tout cet espace un peu foisonnant et fou de pratiques divinatoires, j'ai un peu fait mon marché. J'ai pris ici des gestuels, ici un type d'outil, et que j'ai essayé de reconfigurer, de réinterpréter pour que ce soit, pour que ça serve le propos de la génomique. Finalement, à partir de ces deux figures, j'ai essayé quand même de proposer un service qui serait un contre-pied à ces services-là et que j'ai appelé DNA.
Il y a dans ton travail une attention particulière qui est portée au symbole, à la citation, à la manière des figures de style du design, quelque part. La citation à Jérôme Bosch, par exemple, est extrêmement repérable. Il y a aussi des opérations de traduction. Comment traduire, en quelque sorte, ce qu'est un locus copiste, un gène fantôme ou un ancêtre commun dans le vocabulaire de la génomique oraculaire? Est-ce qu'on peut dire cela, que tu construis un vocabulaire avec ce projet?
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis presque projetée dans inventer une nouvelle discipline. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, elle n'existe pas, elle est folle, cette génomique oraculaire. Et, en réalité, faut trouver son vocabulaire de base, faut trouver sa grammaire, faut trouver sa tactique. Et donc, pour faire ça, effectivement, j'ai pas inventé grand-chose. J'ai fait que du collage. Par contre, il fallait repérer clairement des propriétés, par exemple, de l'ADN et me dire, mais où est-ce que je vois ça ailleurs? Et pour pouvoir les incarner et en fait aussi faire une espèce de filiation. Et c'est ce que j'ai fait, hein, dans le mémoire, en fait. C'est d'essayer de tirer des traits d'union qui sont parfois très, 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 très lointains entre des faits, des courants de pensée qui se parlent pas parce que ils ont a priori rien à s'apporter. Jérôme Bosch, en fait, c'est une référence qui m'est apparue très, très vite parce que il y a quelque chose de fou qui se passe dans la peinture de Jérôme Bosch et notamment dans le Jardin des Délices. C'est très clair. Et surtout, en fait, quand on replie le triptyque, on a un diptyque qui apparaît, qui est grisé, ce que j'aime beaucoup. Donc, il y a une espèce de contraste entre l'intérieur qui est plein de couleurs et qui fourmille. Et quand on le referme, c'est très calme. Et c'est un monde, en fait. C'est une cellule qui est coupée en deux. Enfin, on voit une espèce de plateforme, en fait, dans cette cellule. Et donc, en fait, on voit une espèce de sphère, comme ça, semi-transparente, avec une forme au centre. Et on voit un monde, on ne sait pas si c'est le monde avant, au début, avant que la vie s'installe, après une sorte de désastre, d'apocalypse. Il y a quelque chose que j'adore aussi au niveau temporel là-dedans. Et puis surtout, en fait, bah, c'est un monde qui est coupé en deux par cette plateforme. Et là, ça me permettait d'installer Apollon et Dionysos, c'est-à-dire le monde des données brutes de l'ADN qui sont donc sous forme de piliers comme ça qui flottent, qui sont en fait pris dans cette plateforme, c'est le dessous, et qui est en fait que j'ai appelé les racines du ciel et qui peuvent se retourner, on peut aller d'un monde à l'autre. Et donc dans le monde d'Apollon, on peut aller vraiment interroger son génome de manière très factuelle. Tel gène correspond à quoi? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait pas? Un récepteur membranaire, finalement c'est assez décevant, la plupart du génome soit on sait pas, soit ça correspond à des trucs qui n'ont juste aucune conséquence claire sur, voilà. Et de l'autre côté de ce monde, d'où nous parviennent quand même des morceaux de ces morceaux de génome quand même qui transpercent cette plateforme, eh ben, là, il y a un monde de fous, quoi, avec plein de créatures qui sont un peu comme le cortège de Dionysos et qui circulent et qui sont en fait des manifestations du génome. Et donc là, on va pas pouvoir aller interroger des données brutes, on va aller interroger des êtres dont le discours n'est pas très facile à comprendre et qui vont nous donner chacun qui va représenter une partie du génome, qui va l'incarner. Et c'est comme une émanation du génome, mais d'une manière assez exubérante. Donc voilà, donc Bosch, par exemple, il m'a tout livré, quoi, avec juste ce triptyque, tout était là. On voit, par exemple, dans ce cortège, des demi-sphères qui marchent avec des pieds. En fait, ça représente les gamètes, donc c'est la moitié d'un génome. Et ces gamètes-là, donc enfin là encore, le symbole, ça vient du banquet de Platon, où il y a ces êtres qui sont en fait, qui racontent l'origine de l'humanité, où les dieux ont coupé à un moment donné en deux ces sphères qui étaient en fait, qui avaient les deux sexes. C'est des espèces de demi-sphères comme ça qui cherchent de manière complètement presque hallucinée en fait leur moitié pour reformer cette espèce de sphère originelle. Donc bah, voilà, là j'ai tiré cette référence de là. Voilà, les locus copistes, évidemment, c'est pris sur les moines copistes qui recopiaient la Bible. Et en fait, c'est des morceaux du génome qui passent leur temps à uniquement se dupliquer dans le génome, quoi. Comme pour s'assurer une place dans les générations futures à tout prix. Et donc, bah, je les ai représentés comme, à nouveau, des êtres flanqués Donc c'est un peu comme des espèces de fétiches flanquées des deux côtés de séquences, donc blanche et noire, blanche et noire, blanche et noire, qui est comme une espèce de rythme qui correspond à des séquences d'ADN et qui vont en fait à chaque fois se dupliquer, sauter. Elles sautent parce qu'effectivement elles vont d'un point à un autre dans le génome. Donc en fait, je me suis presque dit, je fais de la mise en scène et effectivement j'utilise des symboles. Voilà, toi t'en as vu certains. Il y en a à qui ça échappe complètement. Il y en a qui en voient d'autres que je n'ai pas mis dedans. J'ai travaillé, par exemple, sur les sons aussi. Quels sons pourraient avoir, en fait, cette molécule, lui donner une voix, en quelque sorte. Là, j'ai travaillé avec Quentin Caille, qui est musicien, et avec qui on s'est amusé à chercher ça. Je lui ai dit, il y a quelque chose de l'ordre de la corde, évidemment, et puis de l'ordre de quelque chose qui est à la fois strident et de quelque chose qui est vertigineux et qui est hypnotisant. Et en fait, on a travaillé sur... il a mélangé des sons qui provenaient d'instruments, effectivement, à cordes et de baleines aussi, parce que ça crée une espèce de truc un peu halluciné comme ça.
Écoutons le son de l'ADN.
Et donc, pour passer d'un monde à un autre, faut emprunter l'ascenseur à boucle, qui est un morceau d'ADN replié comme ça sur lui-même, et ça fait cette sonorité. Ça permet de passer d'un monde à l'autre.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes avec Marie-Sarah Adeny, designer et biologiste de formation, pour parler de génomique oraculaire. Il y a une belle image, une vue d'ensemble où l'on peut voir différents objets. Je vais tenter de les décrire brièvement. Il y a une sorte de bobine de fil juchée sur un promontoire. Il y a une arche plein cintre composée de ce qui ressemble à des baguettes de bois, dont le motif intercale des rayures blanches et noires, telles des bites en noir et blanc qui forment un motif abstrait. Il y a un masque réfléchissant, un miroir trouble produisant des cendres dans un Erlenmeyer. Il y a la forme symbolique d'une hélice à ADN enfermée dans un tube à essai posé à l'envers. Il y a une échelle qui part dans le vide et commence sur un morceau de sol quadrillé. Il y a un jeu de cadres qui semble mettre en exergue des mécanismes du vivant, sous la forme d'un jeu de tarot divinatoire. Il y a la reproduction miniature du retable du Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Au dos de ce retable, le fait est connu et visible au musée du Prado à Madrid, se tient un globe, une demi-sphère couverte par la coupole du ciel. Le retable rentre en dialogue avec des séquences plus ou moins longues, de noir et de blanc, enfermé sous cloche. Ce sont la matérialisation métaphorique des gènes. Que se raconte-t-il entre les paysages de luxure, de débauche et de plaisir de Jérôme Bosch et le petit dôme en vert? Il y a un jeu de dames dont les placements réguliers ont été bouleversés par une cartographie cosmologique. Toutes ces choses fourmillent d'idées, de rapprochements. Une partie de ce monde est en noir et blanc et l'autre en couleur.
Les mikados chromosomiques, les vitraux des oxyribonucléiques, les armoiries mitochondriales, il y a portrait craché, il y a le jardin des immortels, qui sommes-je, le tarot génomique, qui est une autre manière de rentrer dans le génome. Donc l'histoire des mikados chromosomiques, ça c'est vraiment un support de médiation très simple, où j'ai représenté de manière proportionnelle le génome que j'ai reproduit en peignant sur des petits mikados. Ça se tire comme au mikado, et ça se scanne. Et donc, les scientifiques utilisent ces patterns-là, en fait, pour repérer les différents chromosomes. Et ben, il y a moyen de rentrer à l'intérieur. Donc, en imaginant qu'il y a un intermédiaire, médecin ou pas, on pourrait rentrer à l'intérieur du génome de manière complètement fortuite, qui donnerait une espèce de sensation de magie qu'on tire un peu au hasard, et en même temps, c'est très fondé. Mais on peut aussi rentrer par, plutôt, là, les personnages, en fait. Et donc, oui, peut-être que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que tout ce qui est coloré, ça appartient au monde de Dionysos, au monde de l'interprétation, des manifestations. Tout ce qui est noir et blanc, ça appartient au monde des données, de ce qui a pas encore été interprété, et au monde d'Apollon, donc.
Comment ce projet a-t-il été reçu à l'Annecy des Ateliers, qui est connue et reconnue comme école de design pour son enseignement du design industriel, c'est-à-dire la fabrication en grande série de pièces où le jeu est une adéquation de forme de production et de production des formes?
Donc, grosse question, parce qu'en fait, il y a comment il a été reçu et puis comment il a été présenté. Mais j'ai moins insisté sur la partie plus critique, où il y a une question qui a été posée, qui était, bah alors, est-ce que ce service, vous le développez vraiment ou pas? Je l'ai pas du tout conçu comme ça, moi, pour le moment. Pour le moment, je l'ai conçu déjà comme faire des objets qui permettent de raconter le génome, quoi, qu'on connaît si mal. Et ensuite, en plus de poser des hypothèses à la fois super fortes sur ce que ça pourrait être et beaucoup trop, personnelles pour que j'ai envie que tout le monde et cette vision-là du génome, en fait. Je n'aimerais même pas ça, en fait. J'aimerais qu'il y ait autant de visions du génome et de manifestations dionysiaques qu'il y a de personnes qui sont capables de générer des univers et des langages. Moi, j'ai produit celui-ci, mais pour montrer que c'est dans la droite lignée de ce type de cheminement, en fait, conceptuel, c'est tout.
Du coup, avec ce projet, tu fais aussi quelque part de la recherche via le design sur un sujet qui est éminemment qui est scientifique. Oui, bien sûr, parce que c'est de la recherche sur la biologie, sur notre connaissance, sur le corps de tous les êtres vivants. Et tu choisis de le mettre en culture, tu choisis de le mettre en regard avec aussi des choses que dont on peut se saisir. On peut se saisir de cartes, on peut se saisir d'un jeu de dames dont la constellation remplace l'échec habituel. On peut se saisir de toutes ces choses-là. Et peut-être aussi, enfin, je pense que ça pointe du doigt cette chose-là. Les écoles en France sont peu, je pense, préparées à recevoir une approche de recherche en design, et elles sont peut-être mieux armées à vouloir lancer sur la scène des jeunes professionnels pour un monde du travail uniquement et pas que pour un monde de designers-chercheurs, quoi.
Oui, je pense malheureusement qu'il y a de ça. Après, je pense qu'à l'ENSI, c'est une école qui nous laisse encore vachement libre d'explorer et d'avoir des formes très étonnantes. Et ça a été quand même plutôt très bien reçu. Il y a le jury d'une part, mais il y a l'accompagnement. Et je sais qu'il y a eu aucun problème. Et au contraire, il y a eu plutôt un vrai engouement. C'est Isabelle Desron qui m'a suivie sur ce projet. Et c'est pas du tout son monde. Et je l'ai choisi parce que elle a ce degré aussi de folie, quoi, qu'elle se permet dans ses projets, tout en étant toujours dans un cahier des charges très précis. Donc j'avais besoin vraiment de pouvoir avoir les deux. Et puis de l'autre côté, typiquement, enfin celui qui est responsable pédagogique en fait à l'ENSI, Gilles Bellet, qui a été vraiment dès le début très enthousiaste aussi sur le projet et sur aller explorer ce nouveau type de sujet. Donc finalement, j'ai été assez libre et assez soutenue là-dessus. C'est plus que, je pense que le projet était surdimensionné pour un diplôme. C'est-à-dire qu'effectivement, ça aurait nécessité beaucoup plus de temps aussi. Il fallait aussi ramener ça à quelque chose de présentable, de clair. Alors que, de la même manière que pour mon mémoire, en fait, c'est en faisant que j'ai compris ce que j'étais en train de construire aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment de la recherche. C'est là où t'as complètement raison là-dessus. Et c'est là où c'est plus difficile, évidemment, comme diplôme. Même si on est poussé à faire des projets qui ne ferment pas trop, c'est compliqué d'avoir des projets très recherche aussi.
Qu'est-ce que ça change pour toi, fondamentalement, de penser le design avec cette connaissance de la biologie, qui est une connaissance, bien sûr, critique dans ton cas, parce que tu es revenu. Tu as un peu tourné les talons, en tout cas, à la façon dont on forme les scientifiques aujourd'hui. Tu as en effet étudié avant à la faculté, puis tu as fait un master 2 à l'ENS Ulm, si je dis bien. Je crois que tu avais même commencé une thèse en neurosciences. Ouais, qu'est-ce que ça change pour toi de penser, ou plutôt de faire d'ailleurs, des projets de design avec cette connaissance-là?
Alors, c'est difficile de répondre. Parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné autrement. Je sais que quand j'ai plongé dans le design au départ, j'avais vraiment envie de me distancier absolument de mon passé de scientifique, de biologiste. Et en fait, j'y suis revenue très naturellement parce qu'en fait, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je me suis simplement fabriqué, façonné des outils, en fait, avec le design pour étudier ces mêmes sujets, mais avec un tout autre prisme, en fait. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir quand même des vraies notions assez profondes quand même sur le vivant, c'est que c'est comme dans tout, plus on rentre précisément dans les problèmes, plus on est capable de soulever précisément là où il y a un problème, plus ça va être pertinent en fait la proposition après. Mais je me dis que quelqu'un qui aurait pas fait de biologie, qui se serait passionné pour le génome, aurait pu aussi faire ça. Je pense pas que c'est impossible de le faire.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes avec Marie-Sarah Adeny, designer et biologiste de formation, pour parler d'enseignement du vivant pour les jeunes designers. Après cette lecture de ton mémoire, nous allons nous intéresser à ton enseignement de la biologie à l'ENSI-les-Ateliers. Nous aborderons plus longuement cette question durant un deuxième entretien. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que tu enseignes à tes étudiants designers ?
Alors ce cours, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est le cours que j'avais déjà envie de construire quand je suis arrivée à l'école, parce que j'avais vachement... Enfin, j'étais tout le temps en train de partager des références qui étaient liées à tout ça, et je voyais bien que ça émerveillait tout le monde, et donc j'avais envie de construire la possibilité pour les autres de venir aussi puiser, en fait, dans toutes ces références. Et donc je l'ai construit comme le cours que j'aurais aimé avoir, en fait. De la même manière que pour le mémoire, en fait, je dis... de manière un peu grossière que c'est un cours de biologie, mais c'est pas du tout un cours de biologie, en fait. C'est un cours sur le vivant où on attrape le vivant par l'anthropologie, la socio, la philo, évidemment, par des approches scientifiques aussi. Mais en fait, c'est avant tout un sujet sur lequel j'invite les étudiants à prendre énormément de recul et à faire circuler énormément les références et ce que ça va convier, en fait, chez eux. Donc typiquement, à nouveau, les mythes sont très, très importants parce que ils nous aident à penser des choses qui sont impensables. Et ce que je trouve vachement puissant avec les mythes, c'est que finalement, ben, c'est fondateur pour notre pensée, c'est là dans l'inconscient. D'une certaine manière, on les rejette, mais ils sont là. Et en fait, si on les attrape sérieusement, ils nous permettent de mieux comprendre des sujets sur lesquels on a pas de prise, ou même parfois de pouvoir en tirer quelque chose. Tu prends le sujet de l'immortalité qui fait quand même fondre quelques personnes à droite à gauche, qui est vraiment un projet à la fois complètement absurde et morbide. Je me dis, mais est-ce qu'ils ont lu Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh? C'est le premier récit. C'est le tout premier récit écrit sur des tablettes d'argile. Et c'est le récit de cet homme qui va chercher l'immortalité, qui ne va pas la trouver. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de se plonger vraiment dans tout ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là, et qui est en fait un enseignement énorme. De la même manière, si on reste sur ce sujet, immortalité, mais dans quel état? En vieillissant à l'infini. Et là, on peut utiliser le mythe de l'aurore pour penser ça, où en fait, elle va tomber, donc Eos, l'aurore, elle va tomber amoureuse d'un mortel, Titon, et elle va demander à Zeus l'immortalité pour lui. Mais elle va oublier de lui demander la jeunesse éternelle. Donc en fait, il va vieillir à l'infini. Et à la fin, je sais plus, je crois que ça termine... elle l'enferme dans sa chambre, il se transforme en cigale et il termine sa vie comme ça, voilà. Mais c'est hyper intéressant de faire référence à ces mythes pour penser ces sujets. Et donc les élèves, je les invite vraiment à pas prendre ce sujet en silo, mais à essayer de le nourrir. Et donc à chaque fois, je les invite à ramener des choses et à co-construire vraiment avec moi. Il y a une quinzaine d'élèves et ce que je leur demande, parce qu'en fait, il y a une partie théorique et une partie pratique. Dans la partie pratique... je leur demande de m'apporter des nouvelles questions. Je pense que s'ils se mettent en concurrence avec des biologistes ou des ingénieurs, etc., ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ce n'est pas faisable. C'est juste, ils peuvent pas comprendre. Par contre, justement, avoir cette capacité à venir ramener d'autres sujets qui permettent d'embrasser mieux des problèmes, mais ça, c'est le, pour moi, les designers font ça. Ils savent faire ça. J'essaye de les accompagner pour qu'ils produisent, en fait, cette espèce de désorientation dans ces sujets qui, en fait, nous permettent de mieux y penser. Et ils le font très, très bien. Sur des formats, à l'ENSAT, c'est sur des formats courts, c'est sur des formats de workshop de 5 jours. Et à l'ENSI, c'est sur un semestre. Donc, c'est 4 heures par semaine. Donc, ils ont le temps beaucoup plus de mûrir les choses. Et c'est intéressant parce que à l'ENSI, je pense que les élèves se prennent beaucoup plus la tête sur les concepts, etc. Donc, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Et ce que j'adore à l'ENSAT, c'est que, au contraire, peut-être parce qu'ils ont moins une vision de quelque chose de cloisonné par rapport au design et à l'art, ils y vont à fond et donc ils sont plus dans la performance et ça donne des choses qui sont vachement intéressantes aussi pour ça. Donc j'adore en fait enseigner dans ces deux endroits qui ont pas du tout la même approche et où je vois du coup que ça produit pas quelque chose de normé parce que je me dis bah au bout d'un moment j'ai une manière de présenter les choses et de les accompagner qui va peut-être produire toujours le même genre de réponse de leur part. Pour l'instant, ça c'est pas le cas.
Est-ce que tu pourrais partager, sans totalement trahir ce qu'ils sont en train de faire, mais quelle vision anime peut-être ces jeunes designers, qui sont peut-être aussi des questions de valeurs? J'imagine très mal qu'ils parlent pas de questions climatiques ou de questions de féminisme ou ce genre de choses, donc ou de genre. plus largement. Est-ce que t'as, je sais pas, oui, un exemple de choses que de toute façon toi t'aurais absolument jamais fait et que eux arrivent à te ramener sur la table avec une pertinence que qui te parle quoi.
J'adore cette question. Alors c'est très drôle que tu me parles du climat et des questions de genre parce que donc là je vais te montrer deux projets très rapidement. Donc là, c'est des étudiants de l'ENSAD qui étaient très intéressés par les questions de genre. Et donc pendant le cours, à chaque fois qu'on parlait de ce sujet, que ce soit pour les techniques de reproduction médicalement assistée, que ce soit pour, enfin tous les sujets qui étaient liés à ça, ils avaient beaucoup de questions dans ce sens-là. Et donc je les ai invités en fait à venir traiter un sujet qui était très important pour eux par ce prisme-là. Et donc là, eux, ils ont fait un projet qu'ils ont appelé BioQueer.
Le projet explore les relations entre le queer et les récentes recherches sur le microbiote humain. Projeté dans un futur hypothétique où l'hétéronormativité n'existe plus, le spectateur est invité à écouter un discours qui énonce comment les personnes atteintes d'homophobie pourraient être prises en charge à travers leur microbiote pour rétablir un équilibre perdu sans lequel ils souffrent d'homophobie.
Intro du projet BioQueer par Robin Bourgeois, Claire Angelica de Cartert et Talita Otovic. À l'ENSAD 2019.
Si cette flore intestinale allait mieux, en fait, ils allaient retrouver cette espèce de positionnement qui, en fait, n'est plus binaire. Voilà. Et donc, c'était très drôle. C'était très beau. Donc, il y avait ce texte, en fait, qui apparaissait comme ça. Donc, il y a une partie qui n'était pas lisible. Le texte était très beau, très simple. Et puis, dans la performance, il y avait deux pulls accrochés sur des cintres. Ils venaient les porter. Ils étaient enduits de quelque chose qu'on imaginait être une autre manière de réensemencer leur microbiote, quoi. Et puis ils lisaient ce texte en transformant leur voix par tout un tas d'effets, parce qu'en plus de l'autre côté ils étaient aussi très intéressés par tout ça. Mais bon, dit comme ça, on sait pas trop ce que ça donne, mais c'était hyper émouvant. J'ai trouvé ça fort qu'ils arrivent à faire quelque chose de d'émouvant en fait sur ce sujet, et très très simple.
Juste pour rebondir sur ce projet donc de BioQueer, donc dont on pourra retrouver la référence peut-être dans la description. Ce que je trouve très intéressant que tu choisis de me montrer comme exemple, quelque chose qui est de l'ordre du texte, de l'oralité, qui est de l'ordre de l'écriture, et pas du tout ce qui pourrait parfois, enfin comment dire, qui est une image en fait assez directe que l'on a avec la question de biologie plus design et du coup du parfois de ce qu'on appelle biodesign, qui va être cette autoculture de champignons, de bactéries pour aller chercher des nouveaux cuirs, des nouvelles matières, plutôt que de ce que j'appellerais le projet scientifique que tu proposes, sachant que moi je viens plutôt d'un champ de sciences sociales, donc c'est un projet scientifique, qui est de dire on va chercher à mettre ces sciences en culture, et c'est pas pour ça que on doit forcément faire de la biologie concrètement.
En fait, surtout, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que y a pas besoin de surjouer les codes de je fais de la biologie en tant que designer. C'est, en fait, c'est insupportable, ça. On est à côté de la plaque. Ou alors on est vraiment dans l'industrie. Et alors là, c'est ce que je fais chez Pili. Là, c'est très très concret, c'est très clair. Mais en fait, ça se voit pas. C'est les scientifiques qui travaillent tous les jours sur leur paillasse, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de surenchère du biodesigner entre guillemets qui veut absolument gagner sa place en fait entre les deux, et je pense bon alors peut-être qu'il s'éclate là-dedans hein, je pense juste que le designer peut avoir une place bien plus intéressante, tellement plus riche dans ce genre de proposition qui est à la fois effectivement qui n'a pas touché la matière biologique, mais qui l'a touché d'une autre manière qui est beaucoup plus puissante en fait conceptuellement. Et en fait, il faut déjà qu'on aille par là, en fait. Et de l'autre côté, si on a absolument envie de faire une expérience de biologie, je veux dire, on fait pousser une plante chez soi. Je rigole, j'exagère. Mais je veux dire, il y a une espèce de truc où, super, j'ai cultivé mon mycélium, comme tu dis, où... Non, mais c'est passionnant, mais je veux dire, dans ces cas-là, voilà, faut faire des années de moine autour de ça pour peut-être commencer à sortir quelque chose conceptuellement qui est intéressant pour un designer, et qui va pas juste être une pâle copie de ce qu'un biologiste peut avoir comme intuition par rapport à ça. Donc pour moi, ça commence en dehors de la boîte de Pétri. Même si aujourd'hui, il y a un très fort tropisme vers faire pour avoir des idées. Mais enfin oui, mais c'est faire ça, en fait, d'écrire un texte, de venir métaboliser là-dedans, en fait, des questionnements que eux ont personnellement. Ça c'est ce à quoi je tiens le plus, c'est que ça soit très intime ce qu'ils mettent à l'intérieur des projets, parce que c'est là qu'en général ils touchent à quelque chose qui marche, parce que ça ils le connaissent très bien. Donc s'ils connaissent très très bien quelque chose, qu'ils marient à quelque chose sur lequel qui viennent toucher du doigt, et ben ça fait une proposition qui est forte. Et donc là, par rapport au climat, il y a des élèves à qui donc j'ai parlé de géo-ingénierie du climat et des conséquences assez désastreuses que ça pouvait avoir, en fait de mettre la Terre sous perfusion, en fait, en proposant tout un tas d'objets ou de pratiques pour remédier au climat sans remédier vraiment aux causes profondes.
Le projet traite de la géo-ingénierie, qui consiste à manipuler le climat à grande échelle avec des techniques potentiellement dangereuses et qui donne la sensation que tout pourrait être réglé par un surplus de techniques. Ce technosolutionnisme évite de se confronter à la question des causes de ce dérèglement. Le programme spéculatif Atmos explore comment cette géo-ingénierie pourrait s'imposer dans notre quotidien. Il s'agit d'alerter en pointant les dérives afin de bien comprendre ce que les techniques de géo-ingénierie impliquent, en dépit de leurs démonstrations séduisantes.
Intro du projet Atmos par Camille Perrachon et Daniel Cado à l'ENSI 2018.
Geoengineering Corporation, donc GEC, c'était une espèce de mauvaise copie du GIEC, et ils ont travaillé très 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 précisément. C'est vraiment magnifique le travail en plus qu'ils ont fait, parce qu'ils ont essayé de créer un univers très fort esthétiquement pour que ça donne envie. Et en fait, leur idée, c'était d'aller infiltrer les manifs sur le climat pour pouvoir ramener des gens et créer des discussions, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment très ils sont allés très loin, et puis ils ont créé aussi tout un site où ils voulaient convier en fait des scientifiques pour venir aussi donner leur avis. Ils les trouvaient pas assez engagés là-dessus. Ils voulaient qu'ils commentent ces vidéos des vraies réponses qui soient faites en fait à toutes ces personnes qui mettent énormément d'énergie dans des vidéos complotistes ou complètement dingues sur le climat.